L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde,
du pain de beurre. Sur le chemin du retour, j'ai senti que Bad était fâché. Il avait les mains dans les poches, le regard fixe, le corps rentré en dedans. Ma description ne vous semble peut-être pas changée de d'habitude, mais je pouvais voir la différence. Ses yeux paraissaient plus profonds et plus noirs. Mais parce qu'il avait placé en moi sa confiance, il n'a pas tardé à parler. C'est vrai que tu te comportes un peu comme si tu pouvais apporter des solutions. Tu n'as pas l'air de bien comprendre. Les fantômes aussi veulent nous imposer leur vision quand ils se présentent sur la plage, pleins de drames définitifs. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont raison, que rien n'est possible en dehors d'eux. Mais nous, nous y croyons. Sinon, que nous reste-t-il ?
Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez L'Épluche Livre.
Il était une fois une jolie petite fille qui se promenait dans la forêt.
Ah oui, elle vient d'être abandonnée par ses parents, elle va mourir de faim, c'est classique.
Non, pas du tout. Elle se balade et marche d'un bon pas car il ne fait pas très chaud dans ce sous-bois.
Ah oui, elle va brûler ses allumettes pour se réchauffer mais finira par mourir de froid.
Mais non, figure-toi qu'elle se rend dans la joie et la bonne humeur chez ses grands-parents et...
Bien sûr. Et sa grand-mère est un loup déguisé, elle va se faire dévorer, c'est couru d'avance.
Absolument pas, tout va bien. Elle arrive à la porte de la demeure, une maison qu'elle adore.
Oui, parce qu'elle est en pain d'épices la baraque. Sauf que sa mamie est une sorcière. Elle va la bouffer, c'est signé.
Oh, c'est pénible à la fin.
Nous vous proposons aujourd'hui un menu de la mer pour cette troisième émission de rentrée littéraire. Nous éplucherons avec Elisa Béram l'envers du décor de son titre paru chez l'Atalante, Cocagne. Madame Béram, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien,
ouais.
Et vous ?
Mais ça va, merci. Je suis très très contente de vous avoir avec nous en studio. Merci beaucoup, parce que votre ouvrage est une belle découverte de la rentrée, une découverte inattendue pour moi en tant que libraire. Donc,
Merci.
Merci à vous, franchement c'est super. Vous êtes autrice, scénariste, traductrice, je n'ai pas tout dit, je vous laisserai en dire plus. Vous travaillez aussi dans les domaines des nouvelles technologies, si j'ai bien compris. Et donc, c'est à vous. Pourriez-vous vous présenter ?
Ben mince, il ne me reste plus rien à dire. On a épuisé tous les mots en is, rédactrice aussi, du coup, dans les technologies. Oui, en gros, tout ce qui tourne un peu autour de l'écriture, j'en ai fait ma vie. Alors, les livres, c'est pour la passion et les technologies, c'est pour remplir le frigo.
Et quand on dit technologie, on parle de quoi ?
J'ai écrit pas mal pour le blog de l'innovation d'Orange, sur l'IA, puisque c'est la mode.
Oh là là, c'est la mode, mais ça m'intéresse, ça dit donc. On va peut-être faire une quatrième émission IA, les plus chelines, mais avec vous.
Oui, il y a des choses à en dire, ouais.
Ouais, bon, pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est focus sur cette petite pépite, donc Dessous Cocagna, qui est votre troisième roman, paru chez l'Atalante. Mm-hmm. C'est bien ça ?
C'est ça.
C'est votre troisième roman de carrière, ou c'est juste chez l'Atalante ?
Non, on peut dire que c'est mon troisième roman. Le premier, je l'ai écrit au collège sur des cahiers de brouillon et on faisait tourner les cahiers dans la classe comme un feuilleton. Mais ça, c'est pas publié.
C'est pas publié, mais ces carnets sont toujours existants.
Et ils existent.
Ouais. Ah, intéressant. Vous les avez relus ?
Non.
Non ?
Non. Ouais, peut-être un jour, ouais.
Peut-être un jour, ok. Donc, Dessous Cocagna, on peut dire que c'est un roman, merveilleux.
Une fable.
Une fable.
Un conte.
Un conte. Sur le ton du conte.
Alors, j'ai déjà eu des discussions animées avec des livreurs sur ce sujet depuis qu'il est sorti, donc en fait, je n'en sais rien, je ne me prononcerai pas. Mmh. Parce que j'appelais ça un conte et il y a un libraire à Aubusson qui était fâché.
Oui.
Et il m'a dit « Non, c'est une fable, ce n'est pas une énumération. »
Très voilà. Bien.
Alors, je ne veux pas rentrer dans ces...
Moi, je suis assez partisane de... Enfin, vous savez ce que vous avez écrit, quand même, a priori.
Ah bon ?
je crois, je présume. Et justement, je vous demande, qu'est-ce que vous avez écrit ici ? Puisqu'au départ, je me suis dit, bon, c'est chez la Talente, c'est sûrement de la SF, c'est sûrement une dystopie, c'est sûrement un sujet social, un truc fantastique ou merveilleux. Et finalement, bah, c'est un peu tout ça, mais on est très dérouté quant à la forme. Donc, comment ça vous est venu, cette histoire ? Donc, c'est l'histoire de Manton, donc un personnage qu'on apprend à connaître, qui vit sur cette île de Cocagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous présenter ça ?
L'origine de ce projet, c'est un peu un mix un espèce de concours de circonstances. À la base, c'était un pitch de jeu vidéo. On travaillait bien avec le studio La Moutarde, mm-hmm. qui est à Montpellier. Et on réfléchissait à un nouveau jeu, un jeu de pêche. Et je suis venue avec cette idée donc, d'une île dessus, une île du dessous. L'île dessus peuplée de pêcheurs qui ont une vie plutôt facile, prospère. Les poissons se jettent dans les filets et tout pousse dans les arbres. Et un monde du dessous, l'île du dessous, qui, elle, est peuplée d'êtres poissons qui galèrent. Et dans la mer, il n'y a pas d'eau, il y a une espèce de brume remplie de fantômes. Et ça faisait un espèce de gameplay asymétrique, comme on dit, donc le côté jour et le côté nuit. Mais c'était trop bizarre. Pour le studio.
C'était trop bizarre pour le studio. Oui. Tout comme cette musique en fond qui vous a un petit peu...
Qui m'a un peu surprise.
Non, c'est des petites surprises de cette deuxième saison d'émission littéraire. Donc effectivement, là, vous venez de nous faire le résumé,
oui.
du moins introductif de oui. votre roman. Et c'était censé devenir le pitch d'un jeu vidéo qui a été refusé.
Oui, en fait, pas retenu pour le jeu vidéo, mais moi je me suis dit, moi mon histoire elle me plaît bien, donc je vais l'écrire. Voilà, tout simplement, c'est facile. Et le deuxième élément à l'origine de ce livre, c'est que j'étais en train de lire, pour un autre projet d'écriture, un livre qui s'appelle L'événement anthropocène. C'est un essai qui est au Seuil, je crois, Jean-Baptiste Fressot. Christophe Bonneuil, je ne me souviens jamais le nom des auteurs, peut-être que c'est ça. Mais c'est un livre qui prend le mot anthropocène et qui remplace anthropo par d'autres, enfin qui fait d'autres propositions mm-hmm. comme capitalocène, thanatocène, phagocène. Et dans ce livre, il y a une phrase que je trouve très poétique qui est « La prospérité des pays riches s'est construite au moyen d'un accaparement des bienfaits de la terre et d'une externalisation des dégâts environnementaux ». Et ça, c'est donc en fait le propos de Dessous Cocagne. Voilà.
Effectivement, puisque comme vous le disiez, il y a cette île de Cocagne dans laquelle vit ce personnage qui est Manton, qui est finalement assez peu décrit, qui pourrait justement correspondre à tout le monde. On s'identifie très facilement à ce personnage en fait, qui a une vie a priori facile, mais qui va commencer à faire des cauchemars. Mmh. Et ces cauchemars vont finalement s'avérer plus réels que ce qu'il en pense au début, puisqu'il se réveillera sur l'île du dessous, c'est bien ça, mm-hmm. et qu'il rencontrera donc des personnages saines quelque chose, mais certainement pas anthropos. Enfin,
oui, c'est sûr.
Pour le coup.
Voilà.
Qui ont quand même leur... qui ont quand même leur identité propre, là, pour le coup, qui c'est l'altérité. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, là, on est vraiment face à l'altérité pure. On va rencontrer des personnes effrayantes, au premier abord, en tout cas, et pourtant, ces personnes semblent accueillantes, du moins sur un autre ton que celui sur lequel on est habitué en tant qu'humain, en tant que... Enfin, dans des relations sociales très, très différentes. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on écoute là actuellement ?
Alors on écoute un groupe qui s'appelle Cocagne. Le morceau Kakwekop, mm-hmm. c'est de l'occitan. En fait, Cocagne, parce que... Alors ça s'écrit C-O-C-A-N-H-A. Alors personne ne sait comment trop le prononcer, mais en fait c'est de l'occitan. Et mm-hmm. ça veut dire Cocagne, tout simplement, comme le pays de Cocagne. Comme... Ce pays où... Tout est en abondance.
Comme un jardin d'Éden, c'est ça ?
Et c'est ce groupe qui m'a fait découvrir ce mot. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot dans le livre.
Parce que je crois savoir que vous êtes traductrice d'occitan.
Ah non, moi je traduis de l'anglais un peu.
Vous traduisez de l'anglais.
C'est moins mon truc, je préfère écrire. Non, l'occitan c'est... c'est aussi les racines. Enfin, je suis née à côté de Toulouse, j'ai grandi à Carcassonne, j'ai fait mon lycée à Montpellier. Et tradition familiale aussi. Donc c'est... J'ai un attachement. Alors, je suis partie du Sud pendant un moment. J'habitais à Paris, à l'étranger, etc. Et depuis que je suis revenue, j'ai envie de renouer avec ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Je trouve que c'est bien de faire apparaître des mots d'occitan un petit peu comme ça.
D'accord. Donc, c'est une musique cocagna, enfin, kaukwekop, pardon pour la prononciation, qui vous a inspiré, je crois savoir, dans votre processus créatif. C'est donc, ça vous a inspiré un nom, ça vous a accompagné pendant l'écriture?
Pour ce morceau-là, c'est vraiment le nom. Après, ça, c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que j'adore la polyphonie vocale. En fait, ça, c'est la musique, c'est pas la musique que je préfère, j'aime quand même beaucoup de choses, mais dans la musique classique ou traditionnelle, c'est vraiment ce que je préfère. C'est l'harmonie des voix et je trouve que ce morceau est particulièrement beau, c'est pour ça que je l'ai mis là.
D'accord. Et dans votre processus d'écriture, donc il y a d'autres musiques qui vous ont accompagné?
Et oui, une autre notamment d'un groupe qui s'appelle The Planet Is Coming. Mm-hmm. The Comet Is Coming, Comet. Pas The Planet. Ouais. Et le nom du morceau Blood of the Past.
Blood of the Past, on va l'écouter tout de suite. Many corpses begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming. Rooted in a trivial concern, in insecurities, in a need to make face and keep up and drown out the many voices within. Imagine a culture that has at its root a more soulful connection to land and to lovers. But I can hear the lie before you speak. There is nothing but progress to eat, and we are so fat and so hungry, and the black wrists are cuffed in the pig van, while the white shirt and tie in the tube car, distraction and pizza. Pictures of beer and guilt about urges, sexual distrust and abandon to nothingness. Give me something I can nail myself to. Give me a savagely dressed talking head who has something about them I trust and despise, and what of it anyway? These windows don't open, they were designed to stay closed. Shower, smoothie, coffee, commute, check the internet, never stop, never stop. There is a scar on the soul of the world, and it needs you to look. The blood of the past is here, it remains. The blood of the murders, the bodies like sacks leaking grain on stacked chest and back on the plains, it remains. To acknowledge without guilt, to accept without condition, and to listen when other people tell you how you have behaved. Truth is, it's for us to feel and be moved, but I hear the clatter of bone against steel. It is coming, it will not be stilled, it is there. In the air, scorched white, the reflection of sunlight on glass, bouncing back into sunlight on glass, bouncing back. Industrialized, denial, business as usual. So roll your eyes, shake your head, turn away and call me names. I'm okay with that, too proud. Unable to listen, we keep speaking. Motored by blood, unable to notice ourselves. Unable to stop, and unwilling to learn. vous écoutez Les Pluchelis, où nous sommes en compagnie d'Elisa Béram, autrice de Dessous Cocagne, et vous venez d'écouter un morceau sélectionné par ses soins, donc The Comet is Coming. Pourquoi ce morceau, Elisa ?
Alors, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, dans l'île du Dessous, il y a une mer de brume, avec, dans lesquelles vivent des fantômes, des spectres. Ouais. Et pour moi, ce morceau et ce qu'il dit, ça représente assez bien ce que symbolise cette mer de fantômes pour moi. Alors là, j'ai improvisé une petite traduction de Derrière les fagots. Il faudra me pardonner parce que ça ne va pas être très, très joli. Tous les cadavres se mettent à parler. L'ignorance n'est plus un sujet. Le rêve blanc d'une petite vie bien rangée ne peut plus être défendu. Il y a une plaie dans l'âme du monde. Et elle t'intime de la regarder. Le sang du passé est là, il reste là. Incapable d'écouter, nous continuons à parler, marqués par le sang, incapables de nous voir nous-mêmes, incapables de nous arrêter et refusant d'apprendre. Voilà. C'est un morceau assez nerveux, comme on a vu.
Ah ouais, 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 en effet.
Il y a de la colère. Pour moi... Donc en fait, il y a forcément un lien entre cette île du dessus qui est prospère, cette île du dessous qui galère, et cette mer de fantômes, en fait, c'est un peu ce qu'on cache sous le tapis. C'est un peu notre culpabilité. Enfin, je veux pas divulgâcher, mais chaque fantôme est un petit peu une incarnation d'un mot. De la société, on va dire, la question de la surconsommation, voilà, ce genre de choses, qui a un prix, en fait. Et ces fantômes, pour moi, ils viennent... Le fantôme, en fait, c'est un problème non résolu. Un fantôme, souvent, on dit qu'il vient parce qu'il a subi... Enfin, il revient, mais il peut pas être en paix parce qu'il a subi un trauma qui le fait revenir et revenir, revenir sans cesse jusqu'à ce qu'il y ait un soulagement, une résolution. Et donc... cette figure du fantôme, elle est là pour ça, quoi. Pour nous rappeler. Et là, dans les paroles, donc, tous les corps se mettent à parler. Et on ne peut plus faire semblant qu'on ne savait pas.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut pousser plus en avant et parler d'un des fantômes que va croiser le personnage principal ?
Oui.
Donc on peut parler de la dame en chaussettes.
La dame en chaussettes, oui.
La dame en chaussettes et la dame aux chaussettes. Oui. Enfin, je pense qu'on peut...
c'est le premier fantôme qu'on rencontre. Mm-hmm. Et c'est Bad, l'ami de Manton, qui le pêche avec sa canne à pêche. Et c'est au bout de la ligne, il y a une longue suite de chaussettes cousues ensemble. Il y a un personnage qui est fait de chaussettes, qui régurgit des chaussettes et qui va faire tout un laïus de justification de pourquoi les chaussettes sont absolument primordiales et pourquoi il faut avoir plus de chaussettes. Voilà. C'est un personnage qui est directement inspiré de moi-même, car j'adore les chaussettes.
Et vous ne vous habillez que grâce à vos chaussettes, c'est ça ? C'est l'élément de départ ?
Mais j'aime bien les motifs et les choses comme ça, mais c'est vrai que je me pose la question à chaque fois que j'achète une nouvelle paire de chaussettes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette très belle paire de chaussettes ? Voilà.
Donc la vraie question, elle est là. De quoi avons-nous vraiment besoin ?
Oh, c'est une des questions, après j'en sais rien, mais elle s'est manifestée dans le livre, à travers ce fantôme. Ouais.
À travers ce fantôme qui connaîtra un destin assez funeste, puisque Bad est flexitarien, il explique très bien. Donc il lui arrive de temps en temps de manger des fantômes.
Mais pas trop.
Mais pas trop. Mais pas
consommation raisonnée.
C'est ça. Et la consommation raisonnée et cette idée de consommation raisonnée vient justement du monde du dessous et absolument pas du pays de Cocagne. Alors qu'il leur manque tout, c'est justement eux qui arrivent à finalement se plaindre de rien en fait. Ils n'ont pas d'attente, ils ont ce sentiment de manque qui est permanent, qui est finalement. Qui est digéré, pardon, hein, mais qui est en eux, qui fait partie d'eux-mêmes. Et donc, ils ont l'impression, tout en manquant de tout, de ne manquer de rien, quelque part. Ils sont eux-mêmes aussi en recherche d'un autre monde, puisqu'ils ont quand même des souvenirs d'un avant. Comment ça se passe aussi de ce côté-là ?
Bonne question. Il y a aussi une espèce de fuite en avant dessous. Enfin, puisqu'on est l'île du dessous d'une île du dessus, il y a peut-être encore une autre île dessous. Mais il creuse et il trouve rien.
Il trouve rien à part des choses inutiles.
Oui, des cailloux qui brillent.
Ah, des choses.
Ça sert vraiment à rien.
Puis ça se mange même pas.
C'est ça.
Donc franchement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que eux, en tant qu'habitants du dessous, ont parfaitement conscience, dès l'enfance jusqu'à toute leur vie, qu'il y a effectivement une île au-dessus. L'inverse n'est pas vrai.
Mmh.
Donc, est-ce que c'est vraiment une réalité, vous pensez ?
J'en ai discuté avec un autre auteur récemment. Dans la chanson, non, l'ignorance n'est plus de mise. Quoi. On sait très bien qu'il y a une île du dessous. Je ne sais pas s'il y a eu un moment où on ne l'a pas su, en vérité.
Ouais.
C'est là que parfois s'arrête qu'est la limite d'un conte, d'une histoire très allégorique. Parce que là, du coup, forcément, mon île dessus, elle est en parfaite opposition avec l'île dessus. Donc, pour le besoin de l'histoire, on doit prendre un extrême et l'autre de l'autre côté. Et dans la réalité, je sais pas. Enfin, justement, Jean-Baptiste Fresseau, qui a écrit l'événement Anthropocène, il a écrit un autre livre qui s'appelle L'Apocalypse joyeuse. Et ça parle du risque technologique et à quel point il n'y a pas de prise de conscience écologique, en fait. Que depuis toujours, il y a des luttes contre les pollutions. Enfin, dès les prémices de l'industrie, en fait, il y a toujours eu des gens pour lutter contre ça. Et en fait, on a construit une espèce d'acceptation du risque par la compensation financière. Ça, c'est vraiment le résumé très rapide du bouquin, qui est super intéressant. Mais qu'il faut... Enfin, on a toujours l'impression qu'on vit quelque chose de plus exceptionnel que les autres. On a l'impression qu'on vit une époque plus intéressante que dans le passé. Qu'aujourd'hui, c'est maintenant. C'est là le moment où il faut prendre conscience. Et tant mieux, quelque part. Enfin, il faut sans cesse réactualiser ce sentiment, parce que sinon ça peut pousser à l'inaction aussi. Mais toutes les époques sont intéressantes et toutes les époques ont leur lutte et il faut pas l'effacer, quoi. Sinon on n'avance pas, je pense.
Est-ce que Menton est le symbole justement de cette lutte qui reste embryonnaire puisqu'elle est ignorée consciemment, inconsciemment, est-ce qu'il y a des accusations à porter ? Je ne sais pas. Est-ce que ce Menton est ce symbole, là où le fantôme est le symbole de ce qui ne passe pas et de ce qu'on jette mais qui ne disparaît pas ? Est-ce que Menton est un début d'espoir ?
Bien sûr. Oui, encore une fois, donc c'est vrai que c'est ce symbole de la prise de conscience. Et après, du coup, c'est ça la question, à 1000 francs. On a beau savoir qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action. Alors, dans cette histoire-là, c'est la facilité du conte, en fait. C'est que il suffit de le vouloir, de rassembler quelques copains et tout devient plus facile. Mais comment on fait dans la réalité ?
Pas comme dans le conte, vous pensez ?
Si, en fait, n'importe quel projet, c'est juste la somme de volonté. Hein. Aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qui paralyse ou qu'est-ce qui fait qu'on va agir ? Je pense que, justement, l'amitié, c'est important dans ce livre-là. L'amitié entre Menton et cet autre être, l'amitié... quand même les alliés, en fait, il y en a sur l'île du dessus aussi. Donc j'avais quand même envie de finir un peu en apothéose avec une bagarre qui n'en est pas vraiment une, voilà.
Et avec une note d'espoir, comme on peut l'entendre.
Oui. Et donc... Jacques Brel, Une île. C'est une chanson romantique, en fait, mais je trouve que... Moi, j'aime bien l'entendre autrement. Quand même, le premier paragraphe est un peu ambigu. C'est une île comme il parle en même temps, j'arrive plus à me souvenir de la première strophe. Une île au large de l'espoir où les hommes n'auraient plus peur. Voilà, c'est ça les premiers mots de cette chanson. Et je trouve que c'est ça représente assez bien. Voilà, c'est ça. Il faut pas avoir peur en fait.
Donc il ne faut pas avoir peur de s'engager, il ne faut pas avoir peur de créer des liens avec ces personnes qui sont tellement différentes qu'au début on ne se reconnaît pas en elles, on ne s'identifie pas à ça. C'est ça le message ?
Oui, et puis pas avoir peur d'être soi et d'avoir et de désirer quelque chose de meilleur. Voilà, en fait.
Ce qui est assez fort aussi dans cet ouvrage, je pense qu'on pourra sûrement terminer l'émission là-dessus, c'est qu'à un moment donné, Manton accepte de partager. Donc, il oui. accepte de partager, mais de partager dans la réelle acception du terme. C'est-à-dire qu'il donne ce qu'il a, et quand il ne va pas donner dans une espérance chrétienne de recevoir plus, ce n'est pas du tout l'idée, ce n'est pas du tout ce que nous, on nous implique. Parce que quand on est enfant, on dit « donne » dans l'espoir de recevoir. Là, non. Là, il va vraiment donner, et il va vraiment perdre quelque chose.
Est-ce que... pas qu'il perd quelque chose.
Justement, ça m'intéresse, ça. Quelle est votre vision par rapport à ça ?
Il en ressort plus riche, en fait. Enfin, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je me sens mieux dans un monde juste. Enfin, je crois pas qu'on puisse se sentir bien quand ce qu'on a, ça a un coût qui fait du mal aux autres. Voilà.
D'accord. Je pense que c'est une très belle... Très belle définition de la... Enfin, ce qu'on peut dire qu'il y a une morale à ce roman, je sais pas. C'est... En tout cas, ça ouvre des questionnements, ça ouvre une espérance de lutte, d'amitié, de trouver des solutions pour la suite, trouver une conscience pour la suite et effectivement agir par la conscience et par le partage, en donnant vraiment et non pas en accaparant toutes les ressources. Merci oui. beaucoup.
Merci à vous.
Oui. quelle est votre actualité pour puisque ce roman vient de paraître, donc je suppose que vous allez le défendre à plein d'endroits, en parler lors oui. de rencontres.
C'est vrai que c'est le début, c'est toujours pour mon précédent roman, Le Premier Jour de Paix, il est sorti en 2023, et donc maintenant quand je fais des rencontres, le discours est rodé. Et quand on sort un nouveau livre, on fait une rencontre et puis il y a des questions qui surgissent. On n'avait pas du tout réfléchi, en fait. Enfin, si, je réfléchis à ce que j'écris, mais il y a des questions qui viennent et je me dis, mais j'en sais rien, qu'est-ce que j'ai voulu dire. Voilà. Mais je comprends au fur et à mesure ce que j'ai voulu dire. Voilà. Et sinon, en termes d'actualité, je sors d'une résidence là, qui était au lycée Simone Veil de Gignac.
D'accord.
On a fait un projet de roman graphique autour de l'ancienne abbaye d'Agnan. C'était un chouette projet. Je sais pas si vous connaissez l'ancienne abbaye d'Agnan, je fais de la pub du coup.
Non,
c'est vraiment un endroit qui est particulier parce que c'est pas juste une abbaye, c'est une abbaye qui a été détruite, reconstruite et puis surtout qui a été aussi une filature de coton et un centre pénitentiaire pour adultes puis pour mineurs.
D'accord.
Et c'est un lieu qui est très chargé, qui a aussi été à l'abandon pendant des décennies. Il y a des graffes partout sur les murs. C'est une friche, en fait.
Là aussi, hein, il y a un revers... ouais. Il y a deux faces hein, sur le lieu.
Ouais. Et c'est un lieu qui est passionnant. J'ai fait toute une histoire avec un personnage qui a perdu le sens du futur. Mmh. Il sait que ce sens se trouve sur le site de l'ancienne abbaye, mais il ne sait pas quand. Et donc, il va explorer différentes époques. Pour trouver en fait où est le nœud, où est le problème qui fait que le sens du futur a été perdu. Et donc on a travaillé avec des classes sur la poésie, sur des portraits. C'était chouette.
Super. Et on peut vous rencontrer quelque part prochainement si on, en plus de vous entendre, d'avoir eu la chance de vous entendre, on veut vous rencontrer physiquement.
Alors je serai en Isère ce week-end, ouais. près du Vercors, pour un festival qui s'appelle Les Imaginaires Enragés. C'est assez cool comme nom.
Ouais,
ça va être sympa. Et sinon, à la fin du mois, à Nantes, aux Utopiales, et je serai. Ouais, je participe à une émission, une partie de jeu de rôle en direct sur une chaîne, La Bonne Auberge.
Ah oui, je connais.
Voilà. Donc 31 octobre, on va jouer à Things from the Cloud. Je crois que c'est l'extension de Tales from the Loop, qui est un univers années 90. Voilà.
Eh bien,
c'est tout ce que je sais pour l'instant.
Tout le monde a regardé. Donc, ce jeu de rôle, je pense que ça va être vraiment super.
Ça va être marrant, ouais.
Super, merci beaucoup. Merci donc pour ce livre, donc Dessous Cocagne, qui est disponible à la librairie, qui est un livre assez fin mais très très dense, comme et puis on peut multiples interprétations, mais surtout avec un message écologique et social très très fort et en même temps très poétique. À très bientôt sur L'Épluche Libre.
L'Épluche Libre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle, et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain de...